Comment ce peuple, sans armée, jusqu'à 70 ans, on n'avait pas d'armée, depuis 2500 ans, on est en exil, premier exil, sans armée, à chaque génération, quelqu'un se lève pour l'anéantir. Comme on dit l'histoire du Seder, Choldor Vador, chaque génération, Amdi Malon Chalotel, où quelqu'un se lève avec un programme original, personne n'a jamais entendu parler de cela, et l'époque, j'ai une très bonne idée, quoi, on va anéantir le peuple juif. Ah tiens, on ne connaissait pas. Ce sont des puissances énormes. Et nous, on n'a rien. Rien. Aucune armée, rien du tout. Sous leurs bottes. Et malgré tout, eux disparaissent et nous, on est là. Baruch HaShem. Non seulement cela, on revient maintenant en terre d'Israël. Phénoménal. La question se pose, admettons que j'habite encore à Paris, la histoire, et vous déménagez d'un arrondissement à l'autre. Et puis, vous vous appelez, comment tu t'appelles, nom de famille? Karoubi, Bismuth, Usan, Saban, votre voisin, Dupont, Martin Dupont. Bon, vous êtes en train de déménager, encore dans les cartons. Tout à coup, votre voisin, Ding Dong, il sonne. Bonjour monsieur Karoubi, Saban, etc. Moi c'est Dupont, le voisin d'en face. Enchanté de faire de votre connaissance, bienvenue dans le bâtiment. Alors, je vous donne quelques petits tuyaux comme ça, attention, après 10h du soir, la voisine du 5e, elle est un peu casse-pied, le concierge aussi, bon. C'est bon, une petite question comme ça, je ne vais pas vous déranger, mais votre nom, la Karoubi, ce banc, c'est pas français de souche, ça, non? C'est pas juif? Ouais, je suis juif, pourquoi? Ça vous dérange, vous êtes antisémite? Non, moi au contraire, je suis humaniste, je suis pour d'ailleurs les relations intercommunautaires, comme ça je suis très content d'avoir un voisin juif, comme ça on pourra discuter un peu comme ça de temps en temps. D'ailleurs, je ne vais pas vous déranger, vous êtes encore dans les cartons, mais j'en profite, c'est une question qui me tourne depuis une vingtaine d'années. J'ai jamais bien compris, c'est quoi un juif? On parle de vous dans les journaux, vous êtes un peuple qui est très vieux, je sais qu'il y a des gens, il y a une religion juive, mais j'ai jamais compris qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait que vous êtes juif? Je sais comment on devient juif, on devient juif ou bien par la Brit Mila, non, même pas, par une mère juive, ou bien par conversion. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on devient? C'est quoi être juif? Alors, nous ici entre nous, on va lui répondre des choses un peu mystiques du genre « ceux dont les pieds étaient au Mont Sinaï ». Il vous dit « je comprends pas très bien de quoi vous parlez, vos pieds étaient au Mont Sinaï ?» Ouais, moi aussi j'étais une fois au Mont Sinaï là-bas, quand je suis parti, j'ai pris mes pieds avec moi. Il faut lui donner une réponse qui est rationnelle, une réponse vraiment que... qu'on pourrait mettre dans le dictionnaire, d'accord? Larousse, de point, juif, égal. Qu'est-ce que c'est? Quelle réponse rationnelle peut-on donner à monsieur Dupont? À vous jouer, messieurs et mesdames aussi, si quelqu'un veut dire quelque chose. Vous dites? Hein? On veut rationnel.
Oh. Un juif, c'est quelqu'un qui reconnaît Dieu et qui le remercie.
Et si Dupont, il remercie Dieu, et il fait aussi la Torah des Goïms, alias Goï. Les Goïms ont cette loi noachide à faire. Et s'ils font ça, ils ont droit à un petit Olam Haba. Hein? Il faut bien lui répondre à ce pauvre Martin, Dupont. Hein? C'est quoi Neshama? C'est quoi Neshama? Tu dis, c'est une âme. Il dit quoi? Moi, j'ai pas d'âme. Ok, alors on rentre dans la mystique là. Quelque chose que je peux mettre dans le Larousse. Larousse, juif, égal. Je peux mettre Neshama, ça marche pas. C'est un truc... Pardon? Oui, alors ça c'est comment on devient juif. On devient juif ou par une mère juive ou par conversion. Mais qu'est-ce qu'on devient? Il y a des gens qui sont nés juifs. Après ils doivent essayer aussi de vivre en tant que juif. Mais il est juif, qu'il veuille ou pas. Il est né juif. Et qu'est-ce qu'il est? Il est né quoi? Qu'est-ce qu'il a ce monsieur différent d'un autre? Mais il n'est pas serviteur. Il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas du tout religieux. Ils ne sont pas serviteurs. Il y a des juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ça, le juif, il est dépositaire de la Torah. C'est vrai. Ok. Mais c'est pas ça qui le rend juif. Il a un rôle en tant que juif. Mais c'est quoi le juif? Qu'est-ce que c'est? Je vais peut-être vous aider un peu. Est-ce que c'est une religion? Non. Parce qu'on peut être non religieux. Pourtant, on est juif. Et un goy qui serait religieux, ben, il est goy. Vous dites un peuple. Alors, descendants. Est-ce que tous les juifs sont descendants d'Abraham, Israël et Yaakov? Ils sont juifs pourtant. Et les plus grands du judaïsme sont des convertis. Le Mashiach est le fils de Ruth Moabite. Rabbi Akiva, fils de Yosef Hager. Hillel était fils de converti. Ces deux prophètes, lui, Shmuel et Abtalion, étaient convertis eux-mêmes. Alors, c'est pas descendant, c'est pas une descendance génétique. Alors, c'est pas une religion, c'est pas une descendance génétique. Quelqu'un dit c'est un peuple. Je suis d'accord, un peuple. Ça, c'est après, c'est un qualificatif. Ce peuple, il a choisi. Mais qu'est-ce qu'il est d'abord? Est-ce quoi? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une descendance génétique? C'est un peuple. Quelle est la définition des peuples? Communauté définie par quoi? Les Français, c'est quoi les Français? Tous ceux... une terre, pas une langue. Pas une langue. Moi, je viens de Suisse. On a quatre langues là-bas en Suisse. Mais on a la même terre. D'accord? On est citoyen helvète. Alors, il y a des Français. Moi, je suis parti français. On a dû apprendre l'allemand, d'accord? Il y a les Italiens. Et il y a encore le roman, d'accord? C'est une langue des montagnes comme ça. D'accord? C'est pas une langue. C'est une terre. Tous les peuples sont définis par l'appartenance à une terre. Est-ce le cas du peuple juif? Non. On a une terre qui nous appartient, la terre d'Israël, mais c'est pas elle qui nous définit en tant que juifs. Preuve en est qu'on est né dans le désert. On a été créé en tant que peuple dans le désert. Et la majorité des juifs, aujourd'hui peut-être la majorité, juste la moitié habite en Israël, mais la majorité de notre histoire, on n'a pas habité en terre d'Israël. Et jusqu'il y a un ou deux ans, la majorité habitait à l'étranger. Et ils sont encore là-bas. 49% sont encore à l'étranger. Donc on ne peut pas dire que c'est, alors qu'un Français, qui habite depuis 2000 ans, il habite hors de la France, il n'est plus français. D'accord? Un Français qui a 400 ans, il a quitté la France, il habite en Écosse, il est écossais. Fini. Origine française, il ne sait même plus. D'accord? Nous, on n'habite pas cette terre, néanmoins, on est un peuple. Alors, on est un peuple, mais différent des autres. Alors, qu'est-ce qui nous définit en tant que peuple? Encore une fois, tu parles de façon mystique, dans le Larousse, c'est quoi défini par la Torah? Non. Un peuple, c'est une définition par une terre. Torah, ok, ceux qui prétendent que leur religion est la Torah. Bonjour. Ok. Et le juif qui ne sait pas qu'il est juif. Ok, mais ça n'est pas différent. N'importe quel peuple est défini par une histoire. Les Italiens ont une histoire italienne, les Marocains ont une histoire marocaine, les Chinois ont une histoire. Ok, alors on est spécial. On a dit, un peuple est défini par une terre. Nous, on est défini par quoi? Une histoire. Pardon? Oh là là. Ouais, ben, Ezrat Hashem. C'est ce qu'on devrait. Bon, on va faire court parce qu'on a une soirée assez longue. Mesdames, messieurs, il n'existe absolument aucune réponse à cette question. Ça veut dire, on est un peuple, c'est clair, mais aucune définition rationnelle à ce que nous définit en tant que peuple. Pourquoi? Parce que la vraie réponse a été donnée ici au début. La vraie réponse, on a une neshama. Chelek Eloka Memal. On a une partie divine en nous qui fait qu'on est juif. Comment on la reçoit, par naissance ou par conversion? C'est ça nos dénominateurs communs, c'est ce que nous fait le peuple juif. Donc, je ne peux pas dire ça à M. Dupont, encore moins mettre cela dans la Larousse. En parenthèse dans la Larousse, c'est marqué juif, c'est marqué membre du peuple juif. C'est-à-dire le peuple juif, peuple constitué par les juifs. En tournant rond, personne ne sait ce que c'est. D'accord? Et rationnellement, des chercheurs israéliens, une trentaine, se sont cassés la tête des années pour trouver une définition. Il n'y a pas de définition. Impossible. En tout cas, rationnel. La vraie définition, c'est on est une partie de Dieu. De même que Dieu est indéfinissable, est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est que Dieu? On peut pas. Nous sommes indéfinissables. De même que Dieu est infini, nous sommes infinis. Et de même que Dieu est un, nous sommes un. Ça, quand il y a les élections, il y a un peu la bagarre. Mais quand même, on se sent proche de notre peuple plus que des autres. Et ça rentre même bien dans notre nom, parce que le mot Yehudi, si j'écris les trois premières lettres sont les trois premières lettres du nom de Dieu, carrément, Tchimcha, Gadol, Bakadosh, Alenu, Karata. Ton saint et grand nom, tu l'as appelé sur nous. C'est la contraction de trois mots, Haya, Hove, Veye, qui était, est, et sera. Il faut comprendre un peu qui on est. Nous sommes des êtres, ayant une neshama divine, c'est-à-dire infinie, qui était, et sera. Infinie, divine, éternelle. C'est quoi le goy? Goy signifie en hébreu corps. D'accord, Gvia. Gvia signifie des corps. Pourquoi? Parce que eux sont dans le monde du fini. Nous, on est infinis, eux sont finis. Quand on fait une mitzvah, on crée une réalité infinie. Le mot mitzvah, je vais dans votre sens à vous, Mem, Tzadik, Vav, Hey. Les deux dernières lettres du mot mitzvah sont les deux dernières du nom de Yud, Kevav, Ke. Les deux premières, Mem et Tzadik, sont en Atbash. C'est quoi le Atbash? Atbash, c'est un alphabet mystique, où la première lettre, Aleph, correspond à la dernière, Taf. Bet, la deuxième, correspond à l'avant-dernière, Shin. Gimel, Resh, Galet, Kouf, etc. Les lettres Mem, Tzadik, en Atbash, sont Yud et puis Hey. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de Yud Kevavke, une réalité de Hayo Veillé, éternel. Vous savez qu'en maths, combien vaut 1 million de milliards de milliards par rapport à l'infini? Zéro. Hachem nous donne l'occasion de faire toute la journée, sans cesse, grand mitzvah pour les hommes, c'est étude de Torah. Des mitzvot qui sont d'un impact colossal infini. Mais on est dans ce monde-ci, Olam Hazeh. C'est bon. C'est bon. Quand on est né, on n'a pas la Neshama. On la reçoit qu'à l'âge de 13 ans. On n'a que le Nefesh, c'est parties petites de notre corps qui sont très matérielles. Après, lentement, on doit s'habituer à la Ruhaniyut, à Dieu, la Torah, les mitzvot. Mais on est encore très ancré dans le corps. Qu'est-ce que le corps nous propose? Des bonbons. Olam Hazeh. Un monde fini. Et on a des choix quotidiens entre fini et infini. Et comme des crétins, je me mets avec vous, d'accord? Nous tous, on est attirés par ces petites choses du monde fini aux dépens de l'infini. Quand j'ai raconté ça à ma famille il y a quelques années, j'ai marié une fille dernièrement, bon, il y a 2 semaines, et ben, il y a 5-6 ans, elle avait 14 ans, et je raconte tout ça, elle me dit, mais papa, c'est pas vrai. Je peux pas dire que le fini par rapport à l'infini, ça vaut rien. Zéro. Les maths disposaient comme ça, moi je comprends pas. Elle me dit, peut-être l'infini, il est infini, mais ce monde-ci, il est là. Faut pas dire que c'est rien. Ça vaut quelque chose quand même. C'est peut-être très 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 petit par rapport à l'infini, mais faut pas dire que c'est rien. Elle a raison ou pas? Hein? Pourquoi pas? Elle a raison. Et les maths disent non, ça vaut rien. Alors qui a raison, les maths ou ma fille? Les maths, mais faut expliquer comment ça se fait. Qu'est-ce qu'on lui répond à la petite fille là? À la table de Shabbat, elle a 14 ans. Kouchia. Bon, Hachem, sur place, j'ai eu la réponse, j'ai dit, t'as pas compris. Toi, tu réfléchis, comme nous tous ici, avec notre imagination. Alors, on voit l'infini, très, 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 très grand. Mais l'imagination, ça fonctionne avec des images. Or, toutes les images, elles sont finies. Alors, c'est très, très grand, mais ça a une fin. Alors, tu vois, très, 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 très grand. Le Olam Hazeh, il est très, très, très petit, mais il est là. C'est une erreur. Le Olam Haba, le monde de Dieu, il est, le monde rouhani, spirituel, il est infini. Ça finit jamais. Et le fini par rapport à ce qui finit jamais, il vaut zéro. Zéro. C'est vraiment comme ça. Par rapport à un très 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 grand, il vaut un petit quelque chose. Par rapport à l'infini, impossible. L'infini, ça finit jamais. Quand on fait une mitzvah, on crée l'infini. On est là une vie très très courte, tchik-tchak, 70 ans, 80, avec 82 ans, aujourd'hui on est à la moyenne, d'accord? Allez. Et chaque seconde de ta vie, tu peux investir dans l'infini ou perdre ton temps pour rien. C'est un bête midrash, un peu de pub, Rav Emmanuel, d'accord? Tu peux venir avoir tellement de Torah, jour et nuit. Non, il faut aller travailler un peu plus d'argent, un peu les vacances, un peu ci, un peu ça, mais tu perds ton temps, tu perds ta vie. Mais c'est bon. Alors j'ai encore une petite fille à la maison, elle a 16-17 ans, mais à l'époque elle avait 3 ans. J'ai fait une expérience avec elle, devant toute ma famille, c'était la plus petite. J'ai mis devant elle un beau bonbon rouge comme ça, au repas de Shabbat, il dit, tiens, un bonbon pour toi, ou bien, rien maintenant, mais 10 bonbons demain. Elle regarde comme ça, elle sait pas quoi faire. Toutes les filles plus élevées, attends demain, dis, t'auras 10 bonbons. Écoute, les filles, elles voient le bonbon, à la fin, elle a pris le bonbon. C'est nous. Elle a 3 ans, nous aussi. Hachem nous dit, viens maintenant, prends l'infini. Pas 10 bonbons. 10 milliards de milliards de milliards de bonbons. Eh non, j'ai un petit bonbon ici qui est tout bon. Reste au lit un peu plus le matin. À la place de venir chercher ta tante. Après, tu cavales, tu sautes un peu des passages. Shabbat, on va manger et boire. Et puis, on va laisser aller une petite demi-heure de Torah. L'essentiel, on est que Shabbat, n'est-ce pas? Manger, boire, dormir. Il n'y a plus de Shabbat. Et un petit peu lire le journal, regarder un peu tous les appareils aujourd'hui, d'accord, addicté à cela. On perd notre vie. pour des petits bonbons qui valent rien. Dieu a créé dans ce monde deux choses. La vérité et le mensonge. C'est quoi la vérité? On a lu maintenant dans les parachutes sur Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est appelé dans la Torah, dans Yeshaya, il est appelé Abraham Ohavi, celui qui m'aime. Pourquoi? Rambam, à la fin de Chotchouva, il dit, parce que il a fait les mitzvot, pas pour un mérite, pas pour Olam Haba, pas pour le paradis, il a fait parce que c'est le Emet, la vérité. Un amoureux de la vérité. Nous voulons aussi ressembler à Abraham Avinu. C'est marqué, chacun doit dire, quand viendront mes actions, arriveront mes actions à celles de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? La Gemara dans Traité Shabbat, page 104, dit, Emet kai sheker lokai. C'est l'araméen. Emet, la vérité, elle est, elle reste. Elle demeure. Le mensonge, il demeure pas. Il y a des mensonges qui durent longtemps. La chrétienté, 2000 ans déjà. L'islam, 1400 ans bientôt. Mais ils vont disparaître. La vérité, elle reste pour toujours parce qu'elle est, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui reste? Ce stylo, il est vrai? Oui, sa vérité, elle est super, futile. Ce stylo-là, dans un ou deux ans, il n'existe plus. Cette table. Combien de temps de vie elle a cette table à vivre? Hein? À exister? 50 ans à tout casser. Le bâtiment. Allez. 500 ans à tout casser. Et encore, je suis gentil, 500 ans. La planète Terre. Nous, on dit en l'an 6000, tout est terminé. Dans 221 ans et quelques mois. D'accord? Mais même les scientifiques, on va dire, dans quelques dizaines de milliers d'années, millions d'années, ni soleil, ni terre, ni rien. Tout disparaît. Qu'est-ce qui va rester? Une seule chose, Hachem. Haya, Ove, Veye. Qui était, est et sera. Et tout celui qui s'est branché avec Hachem. Quand on fait les mitzvot, on crée des réalités de Hachem. En nous, on devient infini. On devient éternel. Tout ce monde-ci, il sert à rien. C'est, il disparaît. C'est du shaker. Shaker, c'est un mensonge. C'est rien. C'est un flop. Rien du tout. C'est un émet qui reste pour toujours. Et on est aveuglé par le flop de ce monde tous les jours. Et il y a une bataille à faire sans cesse. Savoir. Attention, c'est un flop. T'investis dans rien. Investis dans ce qui est, dans ce qui va rester. Ça, c'est la vérité. Il y a le maître du mensonge. Il est né quand? Shabbat prochain. Shabbat prochain, on va lire dans la paracha. Rivka est enceinte de deux enfants, Yaakov et Esav. Yaakov, on a dit qui c'est. Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim. Il est au Beth Midrash, ici chez Rav Ben Simon, il suit la Torah. C'est un Torah. Torah, rien de, aucune mitzvah qui est plus grande que cela. Chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. Rav Israël a fait le calcul que, en une minute, on peut dire 200 mots de Torah. 200 fois 613, combien ça fait? Un peu plus de 120 000. Quand c'est dur, t'es fatigué, ça vaut x 100. Ça vous fait déjà 120 000, 1 000, 12 millions. Shabbat, ça vaut x 1000, 12 milliards. Une minute! Une minute de Torah, 12 milliards! Ça, c'est Yaakov. Esav, qui est-il? On a dans la paracha un verset où on nous dit que Esav était surnommé Edom. Edom. Pourquoi est-ce qu'on a surnommé Esav Edom? Quelqu'un sait-il? Il était roux, pas pour ça qu'on l'appelait Edom. Hein? Il aimait la chasse, il aimait le sang, c'est pas pour ça qu'on l'appelait Edom. Pas de lentilles, très bien. Quoi pas de lentilles? Parce qu'il a mangé des lentilles rouges, alors à cause de ça on l'appelle Edom. Il a mangé, à cause de ça il est tout rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non. Non. Hein? Ah ouais, à ce moment-là, c'est pas pour ça qu'on l'appelait Edom. Il a dit? Pourquoi on l'appelait Edom? C'est marqué. Alors, je vous dis. Bon. Très bien. Le verset dit comme ça. Vayomer. Alors, l'histoire, elle est comme ça. Yaakov fait un bon plat de lentilles rouges. C'est effectivement pour le deuil d'Abraham qui était décédé. Esav revient des champs. Il est parti, il fait un peu de chasse. Il revient. Il est fatigué et il a faim. Il voit le bon plat comme ça. Que Yaakov est en train de cuisiner, il lui dit, Vayomer, Esav el Yaakov, Aliteni na, Minadom adom azek ayef anochi. Abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge rouge, car je suis fatigué. Dit le verset, Alken kara shemo edom. Soit qu'on l'a appelé rouge. Messieurs, un type normal, il lit ça, il éclate de rire. C'est une blague. Demain, tu rentres à la maison, ta femme t'a fait des frites, tu dis, oh, ça a l'air bon ce truc jaune. Tu as dit truc jaune? Ce sont des frites? Tu as dit truc jaune. Et bon, on change mon ton de famille. On fait maintenant ma famille, le jaune. Tout l'acte de naissance, le truc, le machin de famille. 4000 ans plus tard, on va appeler la descendance de Esav Edom. Ça, 4000 ans, il a fait un petit lapsus. Au lieu de dire, passe-moi des lentilles, il a dit, passe-moi de ce rouge rouge. Ça tient pas la route. En fait, c'est extrêmement profond. On va expliquer tout de suite. Le nom, dans la Torah du moins, évoque toujours l'essence. La vraie réalité de la chose. Jusqu'à là, dans la paracha, on nous raconte l'histoire des deux frères. Ils sont nés, un il aime la chasse, l'autre il aime l'étude, etc. Mais jamais on va voir l'autre, l'un parler à l'autre. La première fois, on voit une citation. Véomer, Esav, El Yaakov. Esav dit à Jacob, deux points, ouvrez les guillemets, on va l'entendre parler. C'est ce verset-là. Or, on parle toujours pour exprimer ce qu'on veut et ce qu'on pense. Jamais pour autre chose. Et si c'est la première fois où on l'entend parler, ça veut dire que maintenant la Torah va nous dire quelle est la pensée et quelle est la volonté primordiale, première, réchitite, d'accord, de Esav. Qui il est? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que tu es. Chaque mot de cette phrase, c'est un axe important de la pensée occidentale, Esav. Aken kara shemo Edom. C'est pour ça qu'on l'appelait Edom. Edom, ce sera l'axe le plus important. Il faudrait pas se répéter deux fois. Mina Adom, Adom, Azé. Donc, pour cela, on va l'appeler Edom, en fonction des axes de pensée et volonté du monde occidental. Alors, Aliteni. Abreuve-moi. Mangez. Les plaisirs du palais. Dans toutes les civilisations, on aime bien manger. Mais dans aucune civilisation, on va faire des 6 cm malheureux de cette langue à papilles gustatives. Tout ce qu'on en fait en Occident, c'est phénoménal. Les livres les plus vendus en France, c'est les livres de cuisine. Et quelqu'un qui a de l'argent, alors il s'est acheté une bagnole, il s'est acheté un bateau, il s'est acheté un hélicoptère. À la fin, c'est quoi? J'ai connu quelqu'un en Suisse, à Genève, comme ça, il avait beaucoup de pétrolier, etc., beaucoup d'argent. Il a eu 70 ans. Sa femme doit lui trouver un cadeau pour ses 70 ans. Qu'est-ce qu'elle peut bien lui faire? Il a tout. Une bouteille de vin qui a son âge. La Gemara, elle dit que le sahar, le mérite des Rechaim dans ce monde, c'est le vin. Quelqu'un, il a déjà tout eu. Tous les pires de ce monde. Le vin, c'est encore plus. C'est fin. Il y a de la noblesse. Il y a aussi de la frime. D'accord? Combien coûte une belle bouteille de vin de collection dans les grands restaurants français? 20 000 euros. Ça veut dire 500 euros la gorgée. C'est pas mal, hein? Pour la boire d'un coup, glou, 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 comme ça, 2 000 euros. Pour combien de temps? Tu prends une gorgée, allez, à gauche, à droite, devant, derrière. 20 secondes, 30 secondes, ça devient dégueulasse après. 30 secondes, 500 euros. Dommage qu'Hachem n'a pas mis des papilles gustatives dans l'œsophage, au moins on aurait encore profité un peu. Non, que 6 cm. Mais les gens payent. Les gens profitent. C'est pas de la blague, parce que c'est un plaisir. C'est unique dans l'histoire. Les restaurants comme il y a aujourd'hui, j'ai eu un élève il y a 2-3 ans, il passait trop longtemps chez nous, il était pâtissier. Il m'a montré des revues de pâtisserie, des appareils pour le chocolat, il m'explique les combines qu'ils font. Ils font tomber, remonter la température, redescendre, tout ça, pour arriver à affiner tout ça, pour faire des trucs de malade. Pourquoi? Pour quelques secondes de plaisir de Olam Hazeh. Une vraie séance. Et après, lui tournait dans c'est pas cachère, dans des différents restaurants, il fait des voyages même à l'étranger pour apprendre tout ça. Quelques centimètres. Ça, c'est Aliteni. Typiquement occidental. Animal. C'est une fonction animale primaire. Mais, en Occident, on va pas se prendre pour les animaux. On va dire Aliteni na. Na, c'est quoi? S'il te plaît, je suis poli, je suis bien éduqué, je suis civilisé. La civilisation, c'est où? Dans le monde. L'Occident. C'est pas les Africains, c'est pas les Sud-Américains, c'est encore moins les Asiatiques. L'Occident. C'est nous, la civilisation. On est poli, on est bien. On sait manger comme il faut. Il y a toutes des lois. Je me souviens dans ma jeunesse. Interdiction de mettre les coudes sur la table, ça se fait pas. T'as fini, tu mets la fourchette et le couteau. Mais il nous envoie dans les... Il marche même, d'accord. Abreuvoir de ce rouge rouge du sang. Les Arabes, quand ils explosent, vraiment, ils sautent lui-même. Idiot, d'accord. En plus, des fois, il se fait sauter d'autres Arabes qui sont dans le bus avec lui. Et en plus, Stam, c'est pas propre. Il y a des membres barbares. Les Allemands, qui étaient le summum de la culture, Deutsche Kultur, occidentale, t'as un numéro, on te rate pas, on t'appelle exactement quand il faut, en groupe, on te met, on te gasse, on te brûle, 17 000 tous les jours à Auschwitz, dans les bons jours de Auschwitz. Et pas comme ça, on te fait rentrer, on n'est pas barbare, il y a de la musique, on joue Tchaïkovski, comme ça, on est éduqué, Alitenina. On est raffiné, on est éduqué, on est civilisé dans le mal, dans la behemiout animale. Aliteni, animal habillé en gentleman. Miladom adom azé de ce rouge rouge, le point le plus central du monde occidental, c'est pour cela qu'on l'appelait Edom. Edom, c'est la couleur. Pour nous dire, et ça ne va pas appeler l'objet par son nom, parce que le nom évoque l'essence, comme on a dit auparavant. Le pourquoi et le comment. Quel est le but de la chose? Quel est le but? Oula, ça m'intéresse pas. Quand je commence à parler, quand je pense à un occidental du but, oula, ouh, tu me saoules la tête. Laisse-moi vivre tranquille. La vérité, ça m'intéresse pas. Lui, il veut profiter de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Le plus superficiel possible. Le look! La couleur! Il n'y a aucune civilisation au monde qui a mis sur un piédestal de façon aussi grande le look que le monde occidental. Les vidéos, télévision, les pubs, la mode, tout ce qui est le plaisir des yeux, à outrance, c'est typiquement occidental. Tout le monde des yeux, du plaisir des yeux. Le paraître aux dépens de l'être. Et combien c'est dur pour nous occidentaux de se débarrasser de ça. Les habits, la coiffure. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, c'est écrit pour un homme, c'est interdit de se regarder dans un miroir. Interdit. Il y a 30 ans, j'ai appelé un possèque, je lui ai dit, c'est encore actuel, il m'a dit, pour les gens de l'étranger, non, pour les Israéliens, oui. Ça a eu été, c'était il y a 30 ans, aujourd'hui, terminé, qui ne regarde pas dans un miroir, hein. Tu rentres dans l'ascenseur, t'as un gros miroir, tu rentres, où tu as des miroirs. C'est interdit. Qu'est-ce que tu regardes, ton côté physique? Mais on est tellement bouffé par le monde occidental, sans cesse, que ça. Minadom adomazé. Kiyayef, Anochi, car je suis fatigué. En Occident, mesdames, messieurs, on est fatigué de nature. Dimanche, jour férié, l'heure moyenne de réveil, c'est quelle heure? 11h, moyenne. Il y en a qui se lèvent à 3h. Il y en a qui n'enlèvent même pas le pyjama. Petit déjeuner, au lit. Pourquoi enlever le pyjama? Dans quelques heures, il faut de nouveau le remettre. C'est fatigant. Le moindre effort. Combien de matière grise est mise en œuvre pour le moindre effort? C'était il y a 20 ans, j'étais en séminaire, il y avait des gens à table comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis ingénieur. On est en train de mettre en place maintenant des portables. Faut pas appuyer, c'est tactile. Vous connaissez tous aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je dis, à quoi ça sert? Bah, faites un effort quand vous appuyez. Au bout d'un moment, ça fatigue le doigt d'appuyer comme ça. Alors, tactile, faut juste effleurer. Des années d'études d'ingénieurs, des dizaines d'ingénieurs pour mettre au point le moindre effort, même pas devoir appuyer, juste tactile. Kiaïef, fatigué. Demande à un occidental lambda dans la rue, comme ça. Pour toi, c'est quoi le cliché du paradis? Ben, une plage de sable blanc, derrière la mer bleue, deux cocotiers, un hamac, des tentes dans le hamac, si possible une jeune dame très belle qui te met des grappes de raisin dans la bouche. Mamash aliteni na mi adom adom azé. Kiaïef anochi. Dernier point, anochi. C'est quoi anochi? Moi, qui a dit anochi? Hachem, premier mot des 10 commandements, anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. En Occident, chacun se prend pour Dieu. Mon cher ami, tu sais que t'as un boss et t'as des choses à faire dans ce monde. Oh, attends, t'es un fanatique, vous. Moi, pour moi, la vie, c'est comme ça. Je sens que c'est comme ça que je vais me réaliser dans ma vie. Mais qui es-tu pour fixer Quelqu'un qui va définir quels sont ses buts de la vie, il se prend pour Dieu, comme s'il s'est créé lui-même. Pharaon a dit ça. C'est marqué « Li yori vana siteni ». À moi appartient le Nil et c'est moi qui me suis créé. Je me suis créé, il sait bien que c'est pas créé, mais il définit à quoi il sert. Chaque type occidental, il se dit, moi, je sais quel est mon but dans ma vie, ou je cherche, c'est moi qui choisis. Non, mon cher ami, c'est pas toi qui choisis, t'es créé. Insupportable, insupportable. Un égoïsme orgueilleux, il se prend pour Dieu. Ces deux entités, Yaakov et Esav, sont les bases mêmes du monde. Le peuple d'Israël est appelé Réchit. Bereshit bara Elohim, Chazal disent, pour Réchit, Dieu a créé le monde. Réchit, c'est le peuple d'Israël, qui est appelé Réchit Tuato. Il y a un verset pour le prophète, Réchit Tuato, c'est le peuple d'Israël. Il y a un autre peuple qui s'appelle Réchit, c'est qui? Amalek. Réchit, Goïm, Amalek. Deux créations réchitites à la base du monde. Le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Bon, rachons-nous souvent la vérité. On va continuer, le mal va disparaître. Comment on sait qu'il va disparaître? Parce qu'il y a une fin au verset. Réchit Goïm Amalek, premier des peuples Amalek, va harito adéobad à la fin, et disparaît. Quand? Très bientôt. Pourquoi est-ce que nous pensons que c'est très bientôt? Continuons un peu la paracha qu'on va lire cette semaine. Esav est le fils aîné. Donc à lui revient le droit d'aînesse. Mais il le vend lors de l'épisode du plat de lentilles. Le père Yitzhak n'est pas au courant de la transaction. Et un beau jour, Yitzhak est déjà vieux, il est aveugle, il appelle son fils Esav, lui dit, écoute, est venu le moment que je te bénisse maintenant, je transmette maintenant les bénédictions, tu es mon fils aîné, donc à toi reviennent les bénédictions, va à la chasse m'apporter un gibier, comme ça, comme j'aime bien, comme ça je te bénis de tout mon cœur. Esav part à la chasse, Yaakov vient, rentre à sa place, déguisé. Esav était très, très, très poilu, chevelu, donc il met une pelisse de fourrure sur ses bras et rentre. Et on recevra les bénédictions à la place de Esav. D'ailleurs, Esav n'a pas oublié la chose. Pour l'occasion, il a édité un proverbe pour ne pas oublier. Qui va à la chasse? Ça vient d'là-bas. D'accord? Ça vient de chez nous. Yaakov rentre. Son père lui dit, t'as fait rapidement. Baruch Hashem, Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Jamais Esav prononce le nom de Dieu. C'est bien toi, mon fils aîné Esav. Yaakov dit oui, ton fils aîné Esav. Oui, moi c'est moi, et lui c'est ton fils aîné Esav. Bien que, dit c'est bizarre, bien que je te tâte, mon fils aîné il est poilu. Il touche, ben c'est poilu, il dit c'est bizarre. A kol kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov, a aidé Esav, les mains sont celles de Esav. C'est bien toi, mon fils aîné, il dit oui. Et il le bénit. Il le bénit. Et il sent l'odeur du Gan Eden. La bénédiction passe bien. Yaakov sort, Esav rentre. Papa, bénis-moi. Mais qui vient de bénir? Esav comprend. Il hurle. Deuxième fois qu'il m'a eu. Quoi, deuxième fois? Ouais, première fois, un jour j'avais faim. Donc, il m'a vendu pas de lentilles contre le droit d'aînesse. Donc, tu l'as vendu sur ton droit d'aînesse. Donc, j'ai bien fait de le bénir. Gamba ouchie. Il bénit, il reconnaît, Yitzhak reconnaît qu'il a bien fait de bénir son fils aîné, Yaakov. C'était lui le vrai aîné, vu que Esav a vendu son droit d'aînesse. Esav se met à pleurer. Il supplie son père Yitzhak, bénis-moi aussi, t'as pas une bénédiction? Et Yitzhak le bénit. Et ça, mesdames et messieurs, on a trop l'habitude d'oublier cette bénédiction, qui est pour nous une malédiction. Vaya kitarid, ou parakta ou lo malsavarecha. Moi, Yitzhak, j'ai fait en sorte que Yaakov soit l'aîné et mette un joug sur ta nuque à toi, Esav. T'es bloqué, t'es ligoté, tu peux rien faire. Esav, c'est marqué dans cette bracha aussi, Al-Khabecha Tichyet, tu vivras par ton épée. C'est un tueur. Sachez que la civilisation qui prône le plus la paix, c'est le monde occidental. Mais celui qui fait le plus la guerre, c'est le monde occidental. Il n'y a aucune civilisation qui a fait autant de morts, qui a inventé autant d'armes meurtrières que le monde occidental. C'est des fous, des malades. Ils font ça toute la journée. Au nom de la paix et du bien. Au nom de la paix et du bien. Achabera tirie, c'est le mensonge. Je ne vais pas dire je vais tuer pour tuer, j'aime tuer. Pour la paix, pour le bien, c'est vrai, mais c'est tout. Les meurtriers. C'est marqué, Vesav alacha. C'est une loi physique. Esav sonna Yaakov. Esav a la haine de Yaakov. Donc s'il veut tuer, Achabaratiria, sur ton épée tu vivras, c'est nous tuer à nous. Yitzhak lui dit, j'ai mis un joug sur ta nuque, t'es ligoté. Tu peux rien faire. Mais, Vaya Kitarid, quand tu pourras te plaindre que Jacob ne joue pas son rôle de peuple d'Israël, à Kol Kol Yaakov, d'étudier la Torah, que la voix qu'on entend est celle de Jacob dans les yeshivot, voix de Torah, étude de Torah, des cours sans cesse, Torah, 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 ou parakta ou lo matzavarecha, tu enlèveras le joug que j'ai mis sur ta nuque, et tu iras le tuer. Et ça va béni d'être notre garde-fou. On arrête d'étudier, il vient les pogroms, les bombes, les guerres, Hachem Ishmor. Le Esav des temps modernes, c'est qui? Adolf Hitler. J'ai fait un cours que je vous recommande de voir, ceux qui ne l'ont pas vu, ça s'appelle Germania. Là-bas, j'explique vraiment pourquoi c'est la même chose. D'ailleurs, la valeur numérique d'Adolf Hitler, c'est la valeur numérique du mot Esav. C'est-à-dire celle aussi d'un nouveau Hitler qu'on a. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de Torah, alors il est moins, il n'a pas trop de succès. Mais Ezrat Hashem, il s'appelle Alain Gematria, Adolf Hitler, Gematria, Esav. Alain et son copain, hein, Mbala Gematria Amalek. Vous pouvez vérifier, c'est ma mâche comme ça. Esav a la haine de Yaakov. Il dit d'ailleurs, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. La nature, le plus fort gagne. C'est un tueur. On doit tuer. Celui qui est plus fort, il gagne. C'est la loi de la nature. Il n'y a que les juifs pour aller contre. Les juifs disent le contraire. Au contraire, on veut. Hachem Oeb et Nirdaf. Dieu aime le poursuivi. Il aime aider le faible. Sur le temple, l'autel de Jérusalem, Hachem n'acceptait que des animaux qui étaient poursuivis et pas poursuiveurs. Pour montrer qu'il aime les poursuivis et non les poursuiveurs. Hitler dit non. Il n'y a que les juifs pour aller contre nature. Il y a une haine terrible. J'ai ici, je suis désolé de le dire dans la synagogue, une chose pareille, à côté du Sefer Torah, le testament de Hitler, il marche mal. C'est plusieurs pages. Les dernières phrases de Hitler. On est le 29 avril 1945, 4h du matin, dans son bunker. Sa femme a pris du poison, Eva Braun, lui va se tirer une balle dans la tempe, et avant il écrit son testament. 20 pages de testament. Dernière phrase du testament. Je demande à tous les Allemands, à tous les nationaux socialistes, les nazis, hommes et femmes, et tous les soldats de la Wehrmacht, de rester fidèles et obéissants jusqu'à la mort, au nouveau gouvernement et à son président. Par-dessus tout, j'enjoins le gouvernement et le peuple à soutenir au maximum, dernière phrase du testament, par-dessus tout, j'enjoins le gouvernement et le peuple à soutenir au maximum les lois raciales et à résister de manière impitoyable à l'empoisonneur de toutes les nations, la communauté juive internationale. Berlin, 29 avril, 4h du matin, Adolf Hitler. Il finit par cette chose la plus importante de tout, la haine de Esav pour Yaakov. Mesdames et messieurs, on est en guerre. La guerre n'est pas finie, on va parler tout de suite un peu de l'actualité, elle n'est pas finie, il est encore en face de nous, Amalek. Notre arme contre Amalek, c'est quoi? Lui, c'est le mensonge. Notre arme, c'est la vérité. Torah. Combien de Torah? Le Gaon de Vilna donne un chidouche extraordinaire. Il y a un midrash connu. Lorsque Yitzhak vient tâter Esav, il dit, c'est bizarre. Hakol kol Yaakov, va adam ide Esav. La voix est celle de Jacob, et les mains sont celles d'Esav. Chazal ont fait un midrash, ils ont dit. Tant que la voix de Yaakov se fait entendre, la kol qu'on entend, c'est kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov, en yadaim yede Esav, les mains sont pas celles d'Esav, il est ligoté, il peut rien faire. Tant que la voix de Yaakov retentit dans les yeshivot, on entend le son de la Torah, kol la Torah, il y en a qui ont dit que ça donnait le mot culture en français, kol Torah, culture, je sais pas si c'est vrai, peut-être. Tant qu'on entend la voix de la Torah dans les yeshivot, les mains sont pas celles d'Esav, il peut rien nous faire. Ce midrash, il correspond absolument pas au verset. Que dit le verset? Le verset dit, Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, et les mains sont celles d'Esav. Toi, tu dis le contraire. Quand la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Ça ne correspond pas à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, la voix est celle de Jacob, les mains sont, oui, celles d'Esav. Tu dis, quand la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Comment tu fais un midrash qui est le contraire de ce qui est écrit? Dit le Gaon de Vilna. Vous voyez dans le Sefer Torah, dans le Chumashim. Comment on écrit le mot col? Kouf vavlamed. Kouf vavlamed. Col, kouf vavlamed. Le premier mot hakol est écrit hey kouf lamed. Sans le vav. Le premier est sans vav. C'est écrit hey kouf lamed sans le vav au milieu. Le deuxième, il y a le vav au milieu. Kouf vavlamed. Comment on peut lire hey kouf lamed sans le vav? Ça fait quoi? Hakel. C'est quoi hakel? Allège. Pas que tu arrêtes d'étudier. Pas qu'on ferme la yeshiva. Il y a l'yeshiva, il y a l'étude. Moi, je suis fatigué aujourd'hui. Il y a un feuilleton, il y a le journal, il y a l'oreiller. Hakel kol Yaakov, seulement allège la voix de Jacob. Immédiatement, Ayadaim, Yede, Esav. Terrible. Terrible. Combien c'est important d'étudier chaque seconde. Pour les dames aussi. Les dames n'ont pas une obligation d'étudier comme nous. C'est un bitul Torah. C'est écrit que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, Avodah Zara et l'assassinat, mais pas bitul Torah. La raison est simple. Quelqu'un fait un péché, aussi grave qu'il soit. Il a créé une réalité de mal. Le mal, il est fini. C'est dans le monde du fini. Quand tu arrêtes d'étudier, tu fais un manque de combien? D'infini! La Torah, c'est infini! Donc, le mal que tu fasses, aussi grand qu'il soit, il a une fin. Mais le manque que tu as créé lorsque tu arrêtes d'étudier, il est infini. Infini. Comment je peux pardonner une chose pareille? J'avais une lettre terrible que j'ai découverte il y a quelques 20 ans peut-être. Une lettre dont voici ici l'original en allemand et la traduction en français. Cette lettre date du 23 novembre 1940. Elle est écrite par un certain I.A. Eckhart, un officier de la Gestapo. Elle s'adresse aux dirigeants des districts des régions conquises de l'Est. À l'Est de l'Allemagne, il y a la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Bohême, des régions à très forte concentration juive. Il y a au moins 3-4 millions de juifs dans ces régions-là. En début de la Seconde Guerre mondiale, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de ces juifs? Il y en a quelques-uns qui ont des passeports d'immigration. Est-ce qu'on laisse sortir, oui ou non? Alors, je vous lis la traduction de la lettre. Cracovie, le 23 novembre 1940. Circulaire émanant de la direction du gouvernement général à l'intention des gouverneurs des districts concernant l'ordre provenant du bureau de la sécurité du Reich en date du 25 octobre 1940. Le bureau de sécurité du Reich, c'est la Gestapo. Il y a déjà une première lettre qui est arrivée le 25 octobre 1940. Maintenant, c'est un supplément le 23 novembre, un mois plus tard. Interdisant l'émigration des Juifs des régions conquises de l'Est. Deuxième lettre qui va dire qu'on n'a plus le droit de laisser les Juifs sortir des territoires conquis de l'Est. Elle explique. Concernant l'ordre du 25 octobre 1940, le bureau de la sécurité du Reich m'a communiqué la chose suivante. Étant donné que les possibilités d'émigration des Juifs hors des frontières du Altreich, des districts de l'Est, du Mehrens, la Moravie et de Bohème sont déjà limités, à la demande du maréchal du Reich, c'est Hermann Göring et Marschmo, ont été encore diminués, je le demande de refuser toute demande d'émigration. On lit un peu trop facilement aujourd'hui cette lettre, à Natania, 78 ans plus tard, mais cette lettre est terrible. Pourquoi? Parce qu'avant cette lettre, on pouvait encore s'échapper, après cette lettre, on ne peut plus s'échapper. Même si tu as un visa d'émigration, tu es bloqué. Bon, je demande de refuser toute demande d'émigration. Et là, mesdames et messieurs, la question se pose, pourquoi? Vous, les nazis, vous nous haïssez. Vous voulez une Allemagne Judenrein, purifiée de juifs, sans juifs. Pourquoi vous nous gardez? Les 3-4 millions de juifs qu'il y a ici, il faudrait un beau jour les détruire, les tuer. On sait que ça a coûté extrêmement cher dans l'effort de guerre allemand d'amener les juifs dans les camps pour les brûler, pour les tuer. Tous les trains étaient pris pour amener des victimes dans les camps. On sait qu'il y a des débats houleux entre Hitler et ses généraux à l'état-major. Les généraux disent qu'il faut amener d'urgence des soldats et des munitions sur le front de l'Est contre la Russie. Hitler dit non, priorité, amener les juifs dans les camps. Les généraux disent, mais Mein Führer, si on continue comme ça, on va perdre la bataille. Il est juif d'abord, mais si on perd la bataille, on risque de perdre la guerre. Et ils ont perdu la guerre. Qui a conquis Berlin? Pas les Américains, les Russes. Au procès de Nuremberg, crois que c'était Rimetrop, un des généraux là-bas, il a dit, si on avait réussi à stabiliser le front russe, on n'aurait pas perdu la guerre. Et pourquoi ils n'ont pas réussi à stabiliser? Parce que Hitler a dit, il faut amener maintenant les trains, pas pour des renforts pour le front, pour amener les Juifs dans les camps. C'est idiot. Tu veux une Allemagne, Judenrein, tu n'auras plus d'Allemagne. Il n'y a plus d'Allemagne. Sois plus intelligent. Tu ne vas pas conquérir le monde entier. Tu ne vas pas arriver en Australie, tu ne vas pas arriver en Chine. Foulez tous dehors. Dis, dans 30 jours, chaque Juif qui sera encore dans le territoire, c'est passible de mort. Ouvre les frontières. Tout le monde sort. Tu refermes. Tu as une Allemagne, Judenrein, sans Juifs, puissante. Pas besoin d'utiliser maintenant les trains pour amener les Juifs dans les camps. Tu es super fort. Pourquoi Hitler s'entête à dire non? Je suis prêt, littéralement, à perdre la guerre, mais au moins, j'amène les Juifs dans les camps. La Gestapo, mesdames, messieurs, répond. Je demande de refuser toute demande d'immigration. Il explique pourquoi. Une immigration des Juifs de l'Est entraînerait une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. On ne parle pas maintenant de tuer les corps. On parle d'empêcher une régénération spirituelle et durable. Hitler écrit dans Mein Kampf, ça fait 4000 ans que ce peuple dure. Comment ça se fait? On veut mettre fin à cette histoire-là. Ce peuple ne sera pas éternel. Comment? Il faut empêcher une régénération spirituelle et durable. Chaque génération, il se régénère. Spirituellement, durablement. Comment on va faire pour empêcher ça? Car de par leur approche religieuse orthodoxe, les Juifs de l'Est possèdent la majorité des rabbins et enseignant de Talmud. Pourquoi il faut amener 6 millions de juifs dans les camps et les griller là-bas? Parce que parmi eux, il y a une majorité d'enseignants de Talmud. La Torah était là-bas, en Pologne, en Lituanie. En Palestine, il y avait très peu de Torah. En Amérique, on n'en parle pas. En France, presque pas du tout. Là-bas, c'est les centres de Torah. Si on attrape la Torah d'Israël, on aura leur peau. Ils pourront plus se régénérer de façon spirituelle et durable. Fallait perdre, ça vaut la peine de perdre la guerre. C'est Amalek. Amalek, il fait 2000 kilomètres pour aller nous tuer dans le désert. Et ce chaud, c'est marqué, c'est comme un bain qui était bouillant. Il saute dans le bain, il est bouillanté. Mais au moins, il a tué des juifs. Au moins, il nous a eus. La même chose exactement. Il est prêt à mourir. Mais au moins, il va empêcher l'éternité d'Israël. Quelques-uns ont réussi, ils ont réussi à s'échapper. Alors, Kotler, comme chez Feinstein, de ces 2-3 rabbins, la Torah réussit à se régénérer. Aujourd'hui, Baruch HaShem, c'est le miracle de l'Ishua de Mir. Je n'ai pas le temps de raconter maintenant, mais un miracle extraordinaire qu'on fait par le Japon. Aujourd'hui, c'est la plus grande Ishua du monde. Ils étaient peut-être 200-300 à l'époque. Aujourd'hui, ils sont 8000. J'ai un élève maintenant. Ils m'ont dit, presque tous les jours, il y a des nouveaux bâtiments. Toujours plus. 8000, 9000, 10000 élèves sont partis de là-bas. Hitler veut attraper ça, la Torah d'Israël. Et continue. De plus, chaque juif orthodoxe de l'Est apporte un renfort important à ces organisations juives américaines dans leur lutte constante pour le renouvellement spirituel du judaïsme américain. La mission, ce n'est pas un rabbin qui parle, ce n'est pas un curé, c'est un officier de la Gestapo, un tueur. Il dit, on doit attraper chaque juif. De plus, chaque juif orthodoxe de l'Est apporte un renfort important. C'est quoi un renfort important? Ce sont des soldats, c'est quoi? Des bombardiers? Une division d'artillerie? Des tanks? Il met les tefs. Il va un shiur de Torah. Il libère Kazmazon avec Kabana. Il fait Shema Israël Shalamita. De ça, ils ont peur. Chaque juif! On recherche chacun dans les armoires, dans les caves, dans les forêts, qu'il n'y a pas un qui échappe. De peur que quoi? De peur que quoi? Torah. Torah. Alors, messieurs, si la Gestapo, elle a compris ça. La Gestapo! Nous, on va dire que c'était sympa, le cours rentre à la maison et dodo! C'est une question de vie et de mort, et de vie éternelle, et de vie physique, bien sûr. Parce que si on n'a pas la vie éternelle, on n'a pas droit à la vie physique. Il est où aujourd'hui, Amalek? Bernard-Henri Lévy, cette année, au mois de mars, je crois que c'est février-mars, émission à la télévision, dévoile qu'en 1935, les Perses sont partis voir Hitler à Berlin. Et on trouvait ensemble qu'ils avaient une origine commune, origine aryenne. Les Perses sont revenus en Iran, Perses à l'époque, ils ont changé le nom de Perse à Iran. Parce que Iran, ça fait aryen. Je pense que BHL a raison. La Gemara dans Brachot, page 8b, dit « Parseim, les Perses, Mekudashim, Mekudashim, c'est-à-dire mis de côté, sanctifié de côté, Umezumanim, et invité les Gehenom à l'enfer. » Et on comprend pas le rapport. Là-bas, la Gemara, elle parle d'un sujet, il y a une phrase comme ça, plantée au milieu, aucun rapport. Après, on continue sur un autre sujet. Pourquoi ? Les pauvres Perses, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est écrit dans la Gemara, traité Yoma, page 10, qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre Rome et la Perse. Rome, c'est l'Occident. Je veux dire, en gros, l'Amérique. La Perse, c'est l'Iran. Ça sonne assez actuel. Qui va gagner ? La Gemara dit, réfléchis un peu. Les Romains ont détruit le temple. Les Perses ont construit le temple. Le deuxième temple a été construit sous les ordres de Koresh, qui était le roi de Perse. Il est arrivé. Que Dieu lui dit, va, construire mon temple. Il a mis un édit dans tout son empire, c'était l'empire perse à l'époque, tous les juifs, les Yehoudim de Juda, qui veulent aller maintenant reconstruire le temple, allez-y, moi je paye, rentrez. Et ils ont construit le deuxième temple. Donc c'est normal que les Perses, qui sont les constructeurs, vont vaincre les Américains, qui sont les destructeurs. Vous comprenez que nous sommes proches d'une guerre aujourd'hui avec l'Iran, parce que vous lisez un peu les nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes le combien 4-5 novembre, chose comme ça. Quelle date on est ? Ça demande demain, voilà, les sanctions américaines contre l'Iran, le détroit d'Ormuz, 30% du pétrole mondial passe par là-bas. Trump a dit, aucun bateau iranien pétrolier peut passer par le détroit d'Ormuz. Donc, qui détient le détroit d'Ormuz ? Les Iraniens. Les Iraniens ont répondu, ou tout le monde passe, ou personne passe. Je ne sais pas ce qui se passera demain, mais s'ils vont faire comme ça, c'est fini, on part en guerre. À Bor Hashem, il y a un deuxième avis dans la Gemara qui dit, c'est les Américains qui vont gagner. La Gemara dit, comment ça se fait ? Les destructeurs vont vaincre les constructeurs, c'est pas normal. La Gemara donne deux tiroutsim, deux réponses. Première réponse, Gzerat Melechi, t'as rien à comprendre, c'est un décret du roi. Dieu a voulu comme ça, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Deuxième réponse, c'est vrai que les Perses ont construit le temple, mais ils ont détruit beaucoup de petits temples. Ils vont en perdre beaucoup de synagogues qui ont été détruites par les Perses. Donc pour cela, ils sont censés perdre cette guerre. Lequel des deux sera le vrai, je l'ignore, mais il semble d'après un Tosfot qu'au début du massacre d'Avodah Zara, dans Avodah Zara, c'est marqué comme ça. Qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah et dit tous ceux qui sont occupés de la Torah viennent prendre maintenant leur mérite, leur récompense. Tous les peuples s'agglutinent au secrétariat du bon Dieu pour prendre leur mérite, leur récompense. Premier qui rentre sont les Romains. Dieu leur demande, qu'est-ce que vous avez fait pour la Torah ? Il dit, on a fait beaucoup. Toute l'infrastructure logistique, des marchés, des ponts, l'électricité, tout ça. Comme ça, les Juifs ont fait du la Torah tranquille. Comment t'as des néons, comment t'as des tables, tout ça, c'est grâce à nous. Alors Dieu leur répond, espèce de crétin, Shotim Shebarolam, vous n'avez pas fait ça pour les Juifs, c'est ça pour vous-même, pas pour la Torah. Dehors. Après qui rentre ? Les Perses. Que vous avez fait ? Même chose. L'infrastructure logistique. De nouveau, il faut dehors. Après, rentre tous les peuples. La Gemara pose la question, pourquoi tu dis les Romains et les Perses après tous les autres peuples ? Dis, tous les peuples sont rentrés, ils ont donné cette réponse et Dieu les a envoyés. Pourquoi c'est écrit d'abord Romains, après Perses, après les autres peuples ? Répond la Gemara parce que ces deux peuples dureront jusqu'au Mashiach. On doit avoir deux peuples qui sont donc des peuples essentiels dans l'humanité qui doivent durer jusqu'au Mashiach. Tosfot pose la question juste à côté, il dit, mais c'est pas vrai. On a vu qu'il y aura une guerre à la fin des temps et l'Amérique va vaincre l'Iran. Marqué comme ça, ils ont pris le côté que c'est l'Amérique qui gagne. Donc l'Iran sera vaincu avant que Mashiach vienne. Répond le Tosfot, ça sera juste avant que Mashiach vienne. Donc si on attend Mashiach pour très bientôt, merci Hachem, alors on est censé voir que l'Iran doit disparaître, merci Hachem, très bientôt. Maintenant, pourquoi je pense que c'est pour bientôt ? Savoir avec la paracha qu'on a lue hier. Dernière phrase de la paracha, c'était quoi ? L'avant-dernière phrase, c'est Ishmael a vécu 137 ans. Et il est mort. Ces peuplades de Ishmaël ont vécu, on donne un bel territoire près de l'Égypte, en venant à la chose, etc. Apne kolechav nafal. Fin de la paracha. Apne kolechav nafal, en face de ses frères, nafal. Nafal, en bon français, c'est s'étendit. Pas tomber, s'étendit. S'étendre, en français, peut être ou tomber, quelqu'un il s'étend par terre, ou s'étendre, c'est il s'étend. Rache explique s'étendre, c'est-à-dire les peuples se sont étendus dans la région, d'accord ? Ils se sont étendus dans ces régions-là. Ça, c'est Rashi. Mais le Baal HaTurim, un des plus grands commentateurs de la Bible, vivant au Moyen-Âge, un des plus grands aussi décisionnaires, c'est lui. Sur les bases de son livre, le Shulchan Aruch a été écrit, le Tour, il y a 700 ans, il nous dit comme ça. Apnei kol echav nafal, il est tombé en face de ses frères, et juste après, il y a le verset, voici la descendance, c'est la semaine prochaine, voici la descendance de Yitzhak ben Avraham. Avraham, au lieu d'Yitzhak, Avraham a mis au monde Yitzhak. Pour nous dire, lorsque tombera Ishmael à la fin des temps, alors viendra le Machiach qui est la descendance de Yitzhak ben Avraham. Quand on voit Ishmael tomber, un peu après, Machiach doit arriver. Tov, on attend qu'Ishmael tombe. À mon avis, ça a déjà eu lieu. J'ai continué un peu sur la même lancée que le Tour. Le Tour dit, quand on parle maintenant de ces peuplades-là, on ne parle pas des peuplades qui vivaient il y a 4000 ans. On parle de Ishmael actuel. Il dit, quand Ishmael tombera à la fin des temps, alors de qui on parle ? Ishmael actuel. Alors Machiach reviendra. Donc d'après ça, le verset d'avant qui nous dit la longueur de la vie de Ishmael, il a vécu 137 ans, de qui on parle, d'après le Tour ? Pas d'Ishmael qui vivait, qui vivait il y a 3000 ans, qui a vécu 137 ans. On parle de la royauté d'Ishmael. Vous me suivez ou pas ? Le Tour, il lit de façon allégorique. Le texte simple, c'est Ishmael qui est mort, point barre, terminé. Le Tour, il dit, non, on comprend quand on dit Ishmael est tombé, et après, il y a la descendance de Yitzhak ben Abraham, on parle de la fin des temps. Et c'est qui Ishmael ? C'est la royauté d'Ishmael qui tombera. Donc d'après cela, quand le texte nous dit qu'il a vécu 137 ans, on nous parle maintenant de la longueur de la royauté de Ishmael. Savoir que tout le livre de Bereshit, ce sont Maaseh Avot Siman Abanim. C'est un signe pour leur descendance. Il y a beaucoup de signes comme ça. Par exemple, Yaakov, il a étudié 14 ans dans l'Yeshiva de Shem Ve'ever. Après, il était 20 ans en exil. Nous aussi, 14 égale 1400. C'était 1400 ans en terre d'Israël. On étudiait dans les deux Yeshivas, les deux temples. Premier temple, deuxième temple, Shem Ve'ever. Après, on était 20 ans, 2000 ans en exil. Et on revient. Ça correspond au niveau des chiffres. Donc peut-être que Ishmael, je ne sais pas si c'est vrai, hein, Ishmael, peut-être que 137 ans, il faut dire, quand on parle de royauté, c'est un signe. On parle en fait de 1370 ans. Ça fait 30 ans, à peu près 25 ans, que je me balade avec ce chiffre-là, 1370 ans. C'est la fin d'Ishmael, et là, ma chair doit arriver. Ok, alors, c'est quand que commence Ishmael ? Si on sait quand il commence, la royauté de Ishmael, on sait quand elle finit. Ben, je ne savais pas. C'est très bizarre, ça. On ne sait pas. Mohammed, l'Égir, il commence son périple en 624. Après 632, il est mort. Après 640, ils ont eu une grande bataille ici dans la région. Après, il continue Poitiers, etc. Bon, alors c'est quand ? Il y a quelques années, ça m'a fait tilt, eureka. En 638 de l'ère chrétienne, les Ishmaélites ont conquis ce que la Torah appelle la Malchut. C'est quoi ? L'endroit du temple. L'endroit du temple est appelé Malchut, la royauté de Dieu. C'est là-bas que Dieu régnait. Ils ont conquis Jérusalem. Ça, c'est de la Malchut. Ça, c'est une royauté. Ils ont conquis Poitiers, qu'est-ce qu'on s'en fout ? D'accord ? Jérusalem, ça c'est une royauté, en tout cas par rapport à nous. Donc il faut faire 638 et 1370, tu verras quand Ishmael disparaîtra. Ça fait combien ? 2008. Raté ? Alors, où est le problème ? Quel âge tu as, mon cher ami ? 19 ans. C'est pas vrai ? Tu as 19 ans et quelques mois. Jusqu'à un jour avant tes 20 ans, tu as quel âge ? 19 ans. Donc quand la Torah nous dit qu'Ishmael est mort à l'âge de 137 ans, ça peut être 137 ans et 364 jours. C'est encore 137 ans. 65, c'est 138 ans. Donc on peut voir encore un an de vie d'Ishmael qui n'est pas écrit dans le verset, mais qui n'est pas fausse. On a dit que 137 correspond à 1370, donc il faut rajouter combien maintenant ? 10 ans. Ça fait combien ? 2018, oh là là ! On y est ? À mon avis, c'est déjà passé. Ishmael est mort. Qui on avait, il y a 55 ans, comme ennemi qui nous entourait ? Nasser, l'Irak, la Syrie, le Liban. 8 armées viennent nous attaquer à la guerre des 6 jours. C'est ça, Ishmael. Qu'est-ce qu'il reste d'eux ? Wallo. L'Égypte, ils ont fait la paix avec nous, mais ils sont en situation financière lamentable. Il y avait deux pays super forts, hyper, hyper dangereux. L'Irak, quand moi j'étais à l'armée, un général venait nous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer quel bonheur nous avons que l'Irak est en guerre contre la Perse. 8 ans, ils ont fait la guerre. Des millions de morts, Baruch HaShem. L'Irak, c'était des dizaines de fois plus que Tsahal. Une armée énorme. Alors on est bon, 1 contre 2, 1 contre 3, mais pas 1 contre 100, contre 200. Là, c'est quoi? La Syrie. Et vas-y, 4-5 ans de guerre civile, il n'y a plus rien. La Gemara dans Sanhedrin, page 98b, dit qu'à la fin des temps, la Perse va conquérir l'Irak et de là-bas, ils vont venir conquérir Israël. Ça fait 30 ans que je connais cette Gemara, j'ai dit, mais comment ils peuvent passer? L'Iran, c'est à 2000 km. Tu as deux super pays qui empêchent de passer. L'Irak et la Syrie. Hachem vient, il dit, l'Irak, tic, tu sautes. La Syrie, tic, tu sautes. Mais moi, je dis, alors si c'est comme ça, ils vont pas rester là-bas, les Américains. Qui va rentrer? L'Iran. Et qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Qui arrive maintenant aux frontières du Golan? L'Iran. Bibi, qu'est-ce qu'il leur dit? On vous laissera pas là-bas. On est juste avant une guerre, il faut bien comprendre. On nous le dit pas, mais on nous le dit, mais on nous le dit pas, il faut comprendre. Ils sont là à la porte, la Gemara, elle dit ça. Page 98, B, Sanhedrin. D'après ce texte de Sanhedrin, ils sont censés conquérir Israël et venir à Yerushalayim. Shem Yishmor. Gog ou Magog, on appelle cette guerre. Il doit mourir à Jérusalem. Dans cette même page de la Gemara, il y a un rabbin qui s'appelle Oula, qui dit que vienne le Mashiach, je ne vais pas être présent quand il viendra. Parce que oulala. Ça va être terrible. Rav Ben-Tzion Abba Shaul Zatzal, qui était un des grands de Torah, le Ruach HaKodesh, des miracles, il m'a dit personnellement, à mon avis, bien sûr il y aura Gog ou Magog, ça doit avoir lieu, mais sans souffrance. Pourquoi? À mon avis, la souffrance est déjà passée dans la Shoah. C'est pas possible qu'on revive encore une même souffrance comme il y a eu. Donc si le rabbin a raison, j'espère qu'il a raison, et d'habitude il avait raison, tout ce qu'il a dit c'est toujours réalisé. Entre parenthèses, on était une fois à table avec lui, on était très proche de lui, avec mes parents, ma famille et sa famille. Je lui dis, Kvod Harav, nous là à table, on verra Mashiach. Il dit, moi je ne sais pas, mais vous oui. Mon père était présent, il a aujourd'hui 83 ans. C'est pour bientôt, c'est clair que c'est pour bientôt. D'ailleurs, si on voit les textes, on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est incessamment sous peu. Je ne sais pas quand il vient Mashiach. Je ne sais pas. J'ai dit, Ishmael est tombé. Ça devait arriver jusqu'à 2018, Ishmael est tombé, c'est fini. Il y avait le dernier qui était encore crié comme un fou, c'était Abu Mazen, là-bas, comment il s'appelle, le chef de l'autorité palestinienne. Trump l'a ratatiné. Fini. Ratatiné, fini. Il a coupé les vivres, plus rien. Wallo. Ismaël est mort, ils n'ont plus aucune force. Plus aucune force. C'est fini. Le seul qui parle, c'est l'Iran. Mais l'Iran, c'est pas arabe. L'Iran, c'est perse. C'est différent. C'est vrai qu'ils ont la religion arabe, la religion musulmane. Mais ils ne sont pas arabes. Ils sont perses. Et eux, sont dangereux parce que c'est Amalek. Et Amalek fait 2000 km pour aller tuer Israël. Et là, ils sont à 2000 km pour venir ici. Ahmadinejad, il a dit, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Et bon, il y a d'autres choses dans le monde que faire que nous, ça va. Un petit pays de rien qui t'embête à 2000 km, c'est Amalek, mamache. Alors on espère que Gog Magog, ça viendra sans souffrance, mais peur y aura. J'ai l'impression, parce que s'ils doivent arriver à Yerushalayim, mais nous, on compte tellement pas sur Hachem, on compte sur Tzahal, on compte sur Kippot Barzel, etc. C'est ch'touillot. Il faut compter sur Hachem. Comptez sur Hachem. C'est marqué à la fin de Yoël. Viniketi damam lo niketi. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Dieu va régler les comptes. Tout ce qui nous fait souffrir tellement durant l'exil. Vachem shochen betzion et Dieu demeure à Sion. Fin de Yoël. Il n'y a aucun rapport entre le début du verset et la fin du verset. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé et Dieu demeure à Sion. Où est le rapport? Explique le commentateur. Il dit, lorsque nos ennemis verront que leur sentence a été signée, la mort. Ils vont venir à l'Amérique, je ne sais pas qui va venir. Les Russes peut-être, on va encore en parler encore sur quelques minutes. Ils vont que c'est wallo, terminé. Ils vont dire, on ne va pas crever tout seul. Les Juifs aussi mourront avec nous. On ne va pas se faire. On crève avec eux. Alors, le verset dit, Vachem Shochen Bition, Dieu demeure à Sion, ils ne réussiront pas. On aura Kippat Shrina, pas Kippat Barzel. On va faire Tehillim, on va suivre la Gemara, beaucoup de Torah, beaucoup de Tehillim, on s'est protégé, on est déjà protégé aujourd'hui. La dernière guerre, quand ça allait rentrer à Gaza, ça a duré 3 semaines. Avant, il y a eu quelques morts, après, il y a eu quelques morts, hélas. Pendant les 3 semaines, il y a eu 3360 missiles qui ont été envoyés par les Gazaouis. 584 ont été interceptés par Kibbat Barzel, le reste sont tombés en Israël. Combien de morts ?
Zéro.
C'est comment un missile comme ça est tombé au Sinaï, 22 morts. Un missile, 22 morts. Ici, 3360, zéro mort. Et elle est là, Hachem Shochan Mitzion, Dieu est là. Mais on doit se renforcer, messieurs. Il y a hélas beaucoup de nos frères qui sont loin de Torah, de nos sœurs aussi. Et il faut que dans la balance, il y ait suffisamment de mérite. Alors, Torah, Torah, Torah. Pour les femmes, Tzniout. Si elles savent, son leitmotiv c'était Edom, c'est regarde-moi, d'accord, regarde le look. Nous, on est toute la Tzniout. Abraham Avinu, il ne sait même pas la, quelle tête elle a, Sarah. C'est ça, la femme juive. En Tzniout. Le grand tikkun des femmes, c'est Tzniout. Le grand tikkun des hommes, c'est pas regarder les femmes. Surtout si ce n'est pas Tzniout, étudie la Torah. On finira après, en finissant avec un petit mot encore, je vais expliquer un peu Gog ou Magog. Je ne sais pas comment ça va avoir lieu, mais il semblerait que les Russes seront de la partie. Il faut comprendre, je ne sais pas comment ça aura lieu, mais ce n'est pas compliqué. On a quand même la bombe atomique, on a quand même une armée, machin. Qui peut venir et l'arrêter ce truc-là? Si Poutine dit, écoutez, je viens, laissez-moi venir tranquillement, sinon je vous détruis, on n'a pas le choix. Maintenant, Gog ou Magog, il semblerait, à mon avis, que c'est les Russes. Pourquoi ? Avec les Perses, ensemble, ils vont venir. Parce que Gog ou Magog, ça vient de quoi ? Ça vient, en fait, d'une prophétie de Yéhézkel, chapitre 38. Là-bas, c'est écrit, Dieu dit au prophète, « Tourne-toi vers Gog, prince Roche, Nassi, Meshech et Tuval, prince suzerain de Meshech et Tuval. » C'est écrit, le prophète lui dit, « Tu viendras du fond du nord. » Contre Israël, contre Jérusalem, où le peuple sera revenu d'exil, tu viendras du fond du nord de ta demeure pour nous attaquer. Et beaucoup de peuples avec toi. Le fond du nord, alors tu prends, tu as le Galilée, après tu as le Liban, après le Liban, tu as la Syrie, après tu as la Turquie, après tu as l'Irak, après tu as la Géorgie, après tu as la Russie. Les Russes, tu n'as pas plus au nord, on va prendre les Esquimaux, d'accord ? Nessi Roche, Meshech Vetuval. C'est quoi Meshech? Moscou. Tuval, c'est quoi? J'ai dit à une conférence dernièrement que je ne savais pas, quelqu'un m'a écrit. Tuval, il semblerait que ça correspond à la capitale de la Géorgie, juste au nord de Jérusalem. Tbilissi. Tuval, Tbilissi. Donc il semblerait que ça viendra de là-bas. Je ne sais pas quand ça sera. Mais, ça sent le Russie. Comprenez qu'à chaque moment, une guerre peut éclater. Trump, c'est un rentre-dedans. S'il rentre dedans en Syrie, en Iran, il fait guili-guili à Poutine, Poutine ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter. Je ne sais pas comment ça sera. Mais on a une seule chose à faire maintenant, faire tchouva, se rapprocher d'Hachem. C'est marqué que doit faire l'homme dans cette même page 98b de Sanhedrin, que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie. Il y a Sok Batorah ou Gun Chassadim. Qu'il soit affairé à la Torah, étude de Torah et à l'entraide. Alors que nous bénissons tous de voir bientôt Mashiach Berachamim et qu'on soit affairé à l'entraide et à les moules de Torah. Je bénis le Rav Ben Simon, que sa communauté grandisse avec beaucoup, beaucoup de Torah, Bezrat Hashem.